Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bien voilà, une nouvelle émission, donc d'un auteur, une nouvelle, toujours avec la participation de ce cher Philippe.
Voilà, bonjour, bonjour, les hirondelles.
Et donc aujourd'hui, on va vous inviter à partir en voyage, puisque ça ne va pas forcément être facile pour tout le monde là, de pouvoir s'échapper. Alors on va au moins essayer de s'échapper par la pensée, par...
Voilà, dans la tête.
Dans la tête, voilà. Alors... nous allons voyager tout d'abord à New York avec Chantal Thomas et puis nous allons partir jusqu'à l'île de la Réunion et enfin nous arrêter à Venise.
Wow.
Mais afin d'entrer dans le vif du sujet, nous allons tout d'abord écouter une petite chanson de Jeanne Moreau qui s'appelle « Les voyages ».
Pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages, les voyages, je sais comment passer le temps. Sable dorés et coquillages, murmures en dormeur du feuillage. Le vent efface mon sillage. Pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages, les voyages, je veux des fruits mûrs, des fruits verts, des fleurs charnues, calices ouverts, des parfums fous, légers, pervers, la mer s'offre chaude. Fais-moi douce petite ronde. Pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages, dormir, mais au revoir. Je vais dormir, mais au revoir. Je vais dormir, mais au revoir.
Quelle actrice, mais quelle chanteuse aussi, hein.
Ah oui, une belle. Enfin, moi j'aime beaucoup, une belle voix, puis l'accompagnement, super.
Tout est bien. Donc, je te disais, Mireille, c'est son quatrième et dernier album, qui s'intitulait Jeanne, chante Jeanne, qui était de 1970. Et je te disais, elle a, là, dans cet album, elle a écrit tous les textes. Je trouve que c'est aussi une parolière.
Bah oui, oui. Hein, c'est...
Bravo.
Quelqu'un d'intéressant, à tout point de vue.
Tout à fait.
Donc, là, on va commencer par un texte de Chantal Thomas. Alors, à ne pas confondre avec la styliste...
Les soutiens-gorge.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'est l'auteur ou écrivaine, comme vous voulez. Voilà.
Qui est rentrée à l'Académie française en janvier dernier à la place de Jean d'Ormesson.
Voilà. Et donc, dans son livre « East Village Blues », excusez-moi pour l'accent, comme toujours. Voilà, Chantal Thomas commence son second chapitre ainsi. J'adore voyager. J'ai même pu croire que c'était ma vocation, être emportée vers le but sans le mériter. Débarquer dans une ville, dans un pays inconnu. Demander mon chemin, par geste, dans une langue étrangère. Ne pas comprendre, faire comme si, et continuer, certaine que, de toute manière, et quelle que soit la direction, tout ce qui me tombait sous les yeux, tout ce qui advenait sur mon chemin, cailloux, personnes, récits, arbres, chansons, maisons, menées, fleurs, magasins, cafés, rochers, marchés, musique, rivières, rivages, coquillages, monuments aux vivants et aux morts, brillaient d'un éclat unique. L'éclat de la première fois. Pour que la magie opère, il n'est pas nécessaire de partir loin. Il suffit de dévier de la routine, de la petite route du quotidien, de se décaler par rapport aux horaires ordinaires, découvrir de nuit ce que l'on est habitué à fréquenter le jour, ou, à l'inverse, prendre le goût de l'aube, ou bien encore, tout simplement, changer de trottoir, sortir des sentiers battus, fendre le flot et aborder sur l'autre rive, entrer dans la musique et, sur son tempo, d'un pas amusé et tranchant, d'un pas décidé et dansant, s'accorder à la voix qui chante. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey honey, take a walk on the wild side.
Ça rappelle un certain Lou Reed, non?
Voilà, c'est ça. Alors, j'ai pas osé le...
Please, babe, le take a walk on the wild side.
Voilà, de chanter, de tout voir, voilà. Parce que, bon.
Moi, j'aime beaucoup, moi, cette idée de faire un pas de côté pour voir ce qu'on ne voit plus dans le quotidien ou ce qu'on ne sait plus voir.
Bah oui,
donc,
oui.
C'est intéressant de creuser ça.
Donc, ce que je vous propose, là, c'est d'écouter, en fait, c'est... Alors, c'est pas vraiment une nouvelle, hein. Là, on triche un peu, mais c'est le premier chapitre de son livre... donc, et ce chapitre qui s'appelle « Le pas new-yorkais » est là qui va être lu par Viviane.
Le pas new-yorkais, 17-18 juin 2017. Ma valise est prête, je gratifie d'une ultime ondée le rosier blanc et vérifie que j'ai mon passeport. L'identité n'est pas mon fort. J'ai perdu 6 passeports dans le cours de mon existence, perdus ou qui me furent volés. Pour celui-ci, la préfecture de police, comme sensible à un imaginaire de conte de fées et frappée par le chiffre 7, m'a suspecté de me livrer un trafic de papiers d'identité et averti qu'il ne m'en serait pas délivré d'autres. Si en plus, il savait qu'il y a quelques années, à Chicago, au bord du lac, un jeune voyou posté au bout d'un tunnel, aussi terrifié que moi, et chaussé des mêmes boots Timberland, mais mieux armé, m'avait pris ma carte verte, ma précieuse green card, peut-être ne m'aurait-on pas accordé ce 7e passeport, le dernier. Il est bien rangé dans mon sac à main, avec mon billet d'avion, mon billet pour New York. Rien que de l'effleurer du bout des doigts, je suis parcourue de l'impatience de partir, de m'envoler, d'apercevoir déjà du hublot les plages rectilignes du rivage d'Amérique, le blanc liséré du sable contre la bordure mouvante des vagues. Mais une fois à l'aéroport, je suis rappelée à la pesanteur du réalisme et à cette vérité de plus en plus confirmée que s'embarquer pour un vol n'est pas un moment de pur élan. On est prêt de s'envoler, certes, mais aucune euphorie ascensionnelle n'est au programme. Ce matin, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il y a eu un bagage abandonné. Quand j'arrive, c'est le second. La foule des voyageurs mise à distance à cause du premier incident est prête à réintégrer l'espace voyageur et repoussée par une nouvelle foule sous la menace d'un autre bagage abandonné. Je me retrouve à l'extérieur, devant une porte d'entrée, mais à l'intérieur d'un enclos délimité par un fil de plastique du genre de ceux qu'on utilise à la campagne avec les troupeaux de vaches. Nous sommes terriblement serrés. Des employés empêchent que l'on quitte l'enclos. « Il faut savoir prendre son mal en patience, madame », meugle un petit homme en short, chemise rose et chapeau de toile, un paquet de nerfs dans la rage anticipée de se payer du bon temps, à l'encontre d'une dame collée contre lui qui, pour la énième fois, demande à passer la limite pour fumer une cigarette. Lui-même est au bord de la crise. Peu après, le processus ayant repris une allure relativement normale, nous sommes autorisés à réintégrer l'aéroport. C'est alors que le tapis roulant pour les bagages tombe en panne, tout se fige. Un tapis roulant qui ne roule pas, de quel nom le traiter ? Le vacancier colérique cherche quelqu'un sur qui déverser sa fureur. À l'instant où l'avion décolle, je décolle. Une bouffée d'insouciance me propulse avec l'appareil. Je deviens aussi insubstantiel qu'une bulle de plaisir. Bien que l'avion soit parti avec plus d'une heure de retard, ça n'entame pas l'aura de cet instant. Et tandis que je bois un verre de champagne en regardant en bas les minces plaques d'or des champs de tournesol de la campagne française, je savoure l'euphorie d'un triomphe. Peu importe que je n'y sois pour rien et que seul le hasard m'ait fait traverser sans encombre ces obstacles dus au terrorisme et à la technique, les deux, au point où nous en sommes aujourd'hui, se maîtrisant aussi difficilement l'un que l'autre et de plus ayant partie liée. Ma part d'implication personnelle consiste à lui faire confiance, entièrement, sans restriction. À vouloir ce qui m'arrive, j'appelle hasard ce qu'en d'autres siècles on nommait providence ou fortune, la déesse à la corne d'abondance, celle entre les mains de qui, si ce n'est pas nécessairement heureux, il est toujours excitant de mettre sa destinée. L'avion traverse les nuages, il est une flèche pointée vers l'azur. Durant le parcours, une série de turbulences ne peuvent rien contre l'allégresse de Radio Latina, sur laquelle je me suis branchée quelque part au-dessus de l'océan. Un bon choix. Les ressources de joie de l'Amérique latine sont une victoire par alliance sur un fond continu de zones de turbulences. En avion, je ne lis pas. J'écoute de la musique et je regarde le paysage, les changements de ciel, les architectures de nuages, les animaux fantastiques, les palais qui s'érigent et se défont en un clin d'œil, le soleil couchant, indéfiniment couchant, ou le contraire, une aurore intemporelle. Mon voyage est détruit si j'ai un siège sans visibilité. Le hublot est essentiel à mon bonheur. Je suis au hublot, comme dans un train, l'enfant, l'étranger sont à la fenêtre. Être assis dans un wagon de chemin de fer, écrit Kafka, l'oublier, vivre comme chez soi, s'en souvenir brusquement, sentir la force du train qui vous emporte, devenir voyageur, tirer sa casquette de la valise, traiter son compagnon de voyage avec plus de liberté, de largesse, d'insistance, être emporté vers le but sans le mériter, sentir cela à la manière d'un enfant, devenir le favori des femmes, subir l'attraction incessante de la fenêtre, poser toujours au moins une main sur le rebord. Jaune est la couleur de l'arrivée à New York. D'abord le suspense de passer ou non avec succès la ligne jaune du service d'immigration. Je me rappelle une fois où, n'étant pas aux normes, j'avais été sanctionné d'un dossier rouge, lequel peut signifier le renvoi immédiat au pays de départ, c'est-à-dire dans certains cas, la prison ou la mort. J'ai encore en mémoire les yeux d'angoisse d'un Pakistanais, sa main serrée sur le funeste document. Et puis, les taxis jaunes. Dans la file d'attente, une femme volumineuse devant moi avec une copine, elle rit fort. La femme se penche pour entrer dans la voiture. Elle dévoile ce qui est écrit en bas de son t-shirt, juste au niveau des fesses. Touch this. tout en respirant avec délice le souffle sirupeux de l'été new-yorkais et songeant qu'autant des voyages en avion, c'est le contact avec un air différent qui procure le premier choc physique d'étrangeté, j'imagine la gifle qu'elle enverrait à qui oserait s'y risquer. D'ailleurs, avec les trains également, maintenant qu'ils sont aussi hermétiquement clos que les avions, il faudrait casser une vitre à coups de marteau pour pouvoir se pencher dehors, le visage offert au vent de la vitesse. Sur le trajet vers l'East Village, le chauffeur de taxi doit modifier son parcours parce qu'une rue est barrée pour une street fair, une kermesse de rue. J'ai le temps d'apercevoir, parmi les vendeurs de fringues indiennes, tartes faites maison, bonnets rasta, pots de miel et falafel, une petite fille, une poupée Barbie dans chaque main, en train de les plonger la tête en bas dans une bassine. Et non loin, cette installation digne de Raymond Roussel. Une mini-piscine, un enfant assis au-dessus sur une planche, une cloison sur laquelle est peint un soleil. Il faut viser le cœur du soleil avec une balle. S'il est touché, la planche s'abaisse, l'enfant tombe à l'eau. Les enfants font la queue pour monter sur la planche. À chaque fois, ils sortent du trou d'eau, la mine ahurie. Quand il s'agit d'un mauvais viseur qui rate systématiquement la cible, le cœur du soleil, la planche ne s'abaisse pas et l'enfant reste frêle et palpitant en attente. Je n'ai pas été très attentive à l'adresse notée sur un bout de papier et que j'avais indiquée au chauffeur. 115 East 9e rue, à l'angle de la 3e avenue, ni quand celui-ci m'a déposé devant l'immeuble, air conditionné, gardien galonné, vaste hall, orchidées blanches, fauteuil de cuir, haute glace répétant fleurs blanches et visage sans expression. J'ai l'impression d'entrer dans un hôtel anonyme ou dans un établissement de convalescence. L'appartement prêté par une amie est au 15e étage. De la fenêtre de la chambre, je peux voir deux clochers d'église proches, exactement équidistants. Je reconnais Grace Church vers l'ouest, élégante, élancée, et St. Mark's Church vers l'est, trapue, rurale. Un petit air benoît qui ne me trompe pas. « Je sais de quoi tu es capable, lui dis-je, avant de céder avec bonheur à la fatigue du voyage, car la fatigue, pour qui aime voyager, n'est pas un élément négatif. Elle approfondit une intimité entre soi et son corps, scelle une connivence avec le nouveau monde. Avec cette brusquerie propre au décalage horaire, qui fait tressauter votre corps de la sonnerie d'un réveil actuellement posé sur une étagère située à des milliers de kilomètres, je me sens arrachée à mon rêve, au lit, à l'appartement. Je suis à nouveau dans le hall de l'immeuble, même décor d'état d'extinction, mais désert, à l'exception du doorman, du gardien, du matin ou de la nuit, lequel tourette derrière un bureau me lance d'un ton d'automate « Have a good day ». Il essaie d'y mettre quelque attention, mais n'y parvient pas. Des semaines plus tard, durant mon séjour, quand il sera hors travail et avec ses copains, et que je le croiserai par hasard à un coin de rue, je remarquerai, au contraire, son ton de voix chaleureux, plein de vitalité, mais alors, il sera retourné à la langue espagnole, sa langue. Car ici, gardien, serveur, infirmier, employé de maison, de magasin, de métro, tous quittent leur langue maternelle à la minute où ils revêtent leur uniforme et y reviennent, le boulot terminé. Il m'a souhaité bonne journée en anglais, dans sa langue de travail. Je lui ai répondu de même, mais pour moi, c'est ma langue de voyage. Elle se teint aisément de la couleur de l'instant. Tout de suite, à 5h du matin, le ciel, parsemé de légers nuages blancs, est traversé de lueurs bleues acier et roses. Un air encore irrespiré transmet une faible fraîcheur venue de la nuit. J'en éprouve comme un parfum d'aventure. Les aubes d'arrivée ont une puissance singulière. Je me dirige vers Cozy Soup & Burger, ouvert 24 heures sur 24 sur Broadway. J'y avais mes habitudes pour le breakfast ou, l'après-midi, pour un riz au lait, rice pudding ou riso gallo, à peu près le seul mot de grec moderne dont je dispose, alors que des années de grec ancien m'ont fait apprendre par cœur des tirades d'Euripide, des récits de Xénophon, les plus belles réparties de Socrate. Perdu sur une île grecque, voilà tout ce dont je serais capable. Demander un riz au lait. Par pénurie linguistique, je serais réduite à répéter jusqu'à satiété mon goût d'enfance pour les nourritures blanches. Cozy Soup & Burger est toujours là. Havre pour les noctambules, les malheureux en proie à une tourmente d'amour, d'argent ou de tempérament, les errants et pénitents qui vont et viennent dans la ville, la parcourent en tous sens comme les fous qu'ils sont devenus à force de marcher, un pied puis l'autre épuisé ou survolté, tendu vers une fin, laquelle ils n'en savent rien. Mais ils continuent les bras ballants ou, poussant devant eux des chariots débordant de sacs archi-pleins de bouteilles en plastique qui leur seront payés le prix de la consigne, quelques centimes la bouteille. Des échafaudages volumineux, informes, des trésors de vide au pied desquels, le soir, pauvre corps brisé, ils se couchent. En fait, c'est toute la ville, ses bars, ses magasins, son métro, qui est un havre pour les noctambules. Elle réussit cet exploit. Elle réunit ces deux qualités normalement séparées. Vous inondez chaque matin de la clarté d'un commencement, frémir d'une énergie diurne infatigable et ne jamais se coucher, procurer aux insomniaques, à toute heure de la nuit, le réconfort d'une présence réelle. La carte est la même, ainsi que l'atmosphère du lieu et sa disposition. Il y a le côté bar et le côté table. Les deux vous assurent une égale solitude, qu'elle vous soit chère ou qu'elle vous enrobe d'une barrière aussi invisible qu'infranchissable, comme dans un tableau d'Edward Hopper. J'ai une tendresse pour les diners. Je suis triste de savoir que c'est une catégorie d'établissements, généralement tenue par des Grecs, en voie de disparaître. Mike Stratidis, patron venu jeune de Chios, qui, au début des années 70, avait ouvert le restaurant, le menait rondement et était sans cesse en mouvement, se retrouve figé sur plusieurs photographies d'articles de journaux racontant sa réussite professionnelle. J'oublie la fin annoncée des diners, capte son sourire et demande un riz au lait, aussitôt répercuté vers la cuisine. Le plaisir d'être à New York, à l'orée de l'été, m'envahit avec la première gorgée de café. Comme je plante ma cuillère dans la blancheur onctueuse du riz, un fragment de mon rêve me revient. Plus exactement, les mots sur lesquels l'heure de France m'a réveillée. Tu as eu plusieurs jeunesses. Je me lève pour aller payer à la caisse, juste à l'entrée. Une dame brune et d'âge mûr chantonne. Elle reprend pour elle-même les airs distillés en sourdine par une petite radio posée à ses côtés. Ce sont des chansons grecques ? Oui, des chansons de l'île où nous sommes nés, mon frère et moi, Chios. Elle se retourne vers le mur derrière elle, couvert de cartes postales envoyées de Grèce, mer et ciel, des variations de bleu. Elle me montre un point, Chios, et puis un autre, Saint-Nicolas, en Crète, Aios Nikolaos, l'île où est né son mari. Les îles grecques, elle ne les oublie pas, tandis qu'elle demeure assise à la caisse depuis près d'un demi-siècle, adossée à la Méditerranée avec seulement ses doigts qui bougent pour rendre la monnaie. Sur Broadway, ligne de démarcation entre l'ouest et l'est, Le trafic est invraisemblable. Parmi les voitures, les autobus, les camions, se détachent quasi nus, les cheveux au vent, la silhouette d'une adolescente en rollers. Elle évolue, sans lui accorder l'ombre d'un pouvoir, entre les griffes de la mort. La tête dans sa musique, elle la prend de vitesse et de souplesse. Ses carapaces de métal, sa puissance mécanique, elle s'en moque. Sur le trottoir opposé, un garçon est assis dans un fauteuil défoncé. Des dossiers, des livres, des vieux journaux sont éparpillés sur le sol. En passant près de lui, je distingue un titre, « Great Expectations » de Dickens, « Les grandes espérances ». Il a plu sur « Les grandes espérances » et le livre, un livre de poche, gondolé, ses pages collées à la triste apparence de choses émergées d'un naufrage. Ce bout de trottoir est un endroit où il a toujours été d'usage de jeter chaises bancales, lampes, vieux bureaux, commodes aux tiroirs dispersés, planches à repasser, jouets, canards flottants, poupons sans bras, peluches, papiers, vêtements, godillots, rideaux troués, tapis usés, etc. Peut-être un rappel du marché des voleurs qui se tenait autrefois, East 8e rue, et où des invitants du quartier venaient racheter des objets chez eux dérobés. Une sorte d'institution. De même qu'à quelques mètres, au 2 Astor Place, existe en sous-sol un mythique salon de coiffure spécialiste des chevelures artistes et crânes déjantés, hérissements punks, crêtes iroquoises, sans exclure les ondulations sages. Curieux, vraiment, où la pérennité va se loger. Des rangées d'immeubles sont détruites, mais des niches improbables où ont réussi à s'incruster un coiffeur, un videur de grenier, perdurent. Des images du passé, par éclats, surgissent, comme réfléchies par un miroir fêlé, un miroir qui aurait été jeté avec d'autres objets abandonnés. Pas vraiment des images, mais plutôt le rappel physique d'une passion. La trace réactivée d'une dynamique, combien marcher dans cette ville a pu m'occuper, être pour moi un motif d'existence suffisant. Non parce que j'étais la proie d'une idée fixe, mais au contraire parce que j'avais le sentiment de jouir d'une liberté merveilleuse, de savourer un luxe. Je repense à une vieille dame d'allure bourgeoise que j'avais rencontrée un jour d'automne à Lyon, dans le Paris de la Tête d'Or. Elle trottinait avec vigueur, là où les feuilles mortes étaient les plus épaisses, et s'amusait, du bout de ses bottines, à les soulever. En réponse à mon regard intrigué, elle s'était exclamée « C'est mon luxe !» La passion me revient, le luxe de marcher pour marcher, de croiser des corps, des visages, de scruter des fenêtres, de déchiffrer au passage un titre de journal, un graffiti incendiaire, de saisir au vol un souffle d'air, une phrase, un geste étrange, un rire pour soi. Je marche dans une ville qui me fut familière. Autrefois me frôle. Mais c'est en reprenant le chemin de l'appartement, en marchant d'un pas de plus en plus vif dans l'East 9e Street, que soudain je réalise où je suis. East 9e rue, la première rue où j'ai habité il y a des années, lorsque cette île de Manhattan m'avait, d'une manière qui me reste encore mystérieuse, fait signe et que, sur le coup d'une pulsion aussi irrésistible qu'un amour naissant, je m'étais sentie forcée d'y retourner. C'est alors seulement, reprise par le rythme new-yorkais, par une hâte à la fois ardente et sans objet, qu'autrefois vraiment s'anime. Je n'ai qu'à me glisser dans le cercle de sa roue, dans la multiplication des jeunesses. Marcheuse vers rien, ça ne retire pas leur nécessité au tracé de mes errances.
Donc voilà, un beau texte.
Enfin, moi, bien écrit.
Voilà, c'était... Et qui nous fait voyager dans à New York. Donc, Chantal Thomas, elle est née le 20 janvier 1945. Donc, elle est romancière, essayiste, dramaturge, scénariste, spécialiste de la littérature. Et c'est une universitaire française, élue à l'Académie française en janvier 2021, donc il n'y a pas assez récent, où elle succède à Jean d'Ormesson au fauteuil numéro 12. Donc, elle a enseigné dans plusieurs universités américaines et elle est directrice de recherche au CNRS.
Voilà, et au cinéma, donc, elle a été révélée au grand public avec Les Adieux à la Reine, adaptée par Benoît Jacquot. Et puis plus récemment, elle a écrit le scénario de Dernier Amour en 2019, toujours de Benoît Jacquot, avec Vincent Lindon dans le rôle de Casanova.
Et donc, voilà, donc avec Les Adieux à la Reine, elle avait d'ailleurs obtenu le prix Femina en 2002. Donc, voilà, au théâtre, donc, il y a par exemple le Palais de la Reine et l'Île flottante qui ont été joués et mis en scène par Alfredo Arias en France et en Argentine. Wow. Voilà. Et, donc, elle assure aussi une chronique mensuelle dans le journal Sud-Ouest, dont certaines sont parues entre 2014 et 2018 et publiées en 2020 sous le titre Café Vivre, chronique en passant. Alors, en 2014, elle a reçu le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre, le prix Roger Caillois de littérature française et en 2015, le prix Prince Pierre de Monaco. Donc, elle est membre maintenant du jury du prix Femina, officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et officier de l'Ordre National du Mérite.
Double officier.
Ah, donc là, c'est quand même...
Des galons.
Voilà, madame, hein, c'est madame. Mais je vous conseille vivement de la
quand
lire.
Quand même de la lire. Ouais.
Voilà, parce que c'est... on fera sans doute une émission sur elle parce que j'ai trouvé d'autres petits textes.
Il y a de la matière.
Voilà. Donc, alors maintenant, ce que je vous propose, maintenant qu'on a traversé l'Atlantique, eh bien, on va partir au-delà de l'océan Indien avec une nouvelle intitulée « Les vacances de rêve » de Isabelle Waraud, qui est extrait du recueil de nouvelles « Nouvelles océan Indien » dans la collection Archipel des éditions Reflets d'ailleurs. Voilà. Et donc, ces vacances de rêve, eh bien, elles sont lues par Philippe en personne.
Ne pas se tromper sur le titre. La nuit chaude résonnait des chants criards des coqs. Rémi essayait de ne pas penser, de ne pas rêver, juste dormir sans cauchemarder. Enfermé dans sa voiture, il écoutait les bruits de la ville. Des motos pétaradaient et passaient, moucherons vrombissant l'ignorant. La transpiration coulait sur son front brûlant, mais il n'osait pas descendre la vitre. La colère l'envahissait, à l'idée des péripéties qui avaient précédé cette nuit. Oui, il était dans de sales draps. Un moment d'inattention suffit parfois à déclencher une série d'événements inattendus et impossibles à maîtriser. Arrivé la veille à l'aéroport Roland-Garros, il se faisait une joie de ce voyage organisé dans ses moindres détails. Il avait préparé ses valises plusieurs jours à l'avance, choisissant avec soin les habits qu'il avait achetés pendant les soldes d'été. Soigneusement pliés, ils avaient dormi là jusqu'à ce soir d'hiver où il allait s'envoler vers la chaleur des tropiques. Il avait nargué ses collègues de bureau en leur racontant le programme qu'il s'était concocté pour ses vacances au soleil. Pendant qu'il se gèlerait les soirs d'hiver, il se voyait arpentant les sentiers de randonnée du parc national classé par l'UNESCO. Il s'imaginait l'atmosphère humide des forêts, de la pluie, les orchidées poussant sur les vieux troncs, le parfum des soirées au bar de la pension devant un verre de punch près d'une hôtesse métisse au parler chaleureux du créole. Peut-être qu'il aurait la chance de plaire à une de ces fleurs tropicales. Il les avait tous fait rêver pendant les repas à la cafétéria. Volubile, il en devenait poète. Depuis des années, il rêvait de tropiques, guettant les promos « vacances au soleil », dubitatif sur la destination qu'il choisirait. Les Antilles ou Tahiti, trop communes ou trop chères, et les Maldives, saisies la fleur d'eau, lui faisaient peur. Avec le réchauffement de la planète et les risques de la montée des eaux, il avait peur que cela se passe pendant son séjour. Les Seychelles, c'était pour les nouveaux mariés, et l'île Maurice, un peu trop touristique à son goût.
Ils fantasmaient sur les sentiers sauvages, les précipices, les sommets vertigineux. Ils se voyaient se perdre et s'enfoncer dans des forêts presque inaccessibles, sentir les fumées soufrées du volcan. Ils s'imaginaient jouer les tarzans, suspendus dans les lianes, accrochés aux branches géantes d'arbres immenses noyés dans la brume. Il avait donc choisi l'île de la Réunion, dont les photos éblouissantes l'avaient captivé. Oui, cette île, dont l'intérieur était sauvage, lui offrait le sentiment d'aventure dont il avait envie. Il se baignerait dans les cascades aux eaux glacées, il plongerait dans les bassins, nagerait dans les torrents. Le soir, un verre devant un coucher de soleil bien rouge, comme sur les cartes postales. Et surtout, il oublierait cette vie terne d'employé de la RATP, réglé comme du papier à musique, métro, boulot, dodo. Et peut-être qu'un événement inattendu, une aventure, lui ouvrirait de nouveaux horizons. À l'aéroport d'Orly, il avait sagement suivi la longue file des voyageurs chargés de nombreux bagages. Certains étaient habillés de sari, d'autres de tunique ou de sarouel. Barbus, pèlerins de la Mecque, africains ou belles métisses à la peau mate défilaient devant ses yeux déjà éblouis. Il était déjà ailleurs, cet ailleurs qu'il appelait de tous ses voeux et dont il était le plus fervent des adeptes. Partir, enfin. Il avait économisé chaque mois pendant plusieurs années pour ce voyage dont il attendait tout. En partance pour des vacances de rêve. Les voix exotiques des haut-parleurs invitaient les passagers à se diriger vers la porte d'embarquement. Assis sur son siège étroit de la classe économique, il avait été surpris par l'aspect bétaillère de l'avion rempli à ras-bord. Impossible d'étendre ses longues jambes. Il n'avait pas pensé réserver son siège par avance et les meilleures places avaient depuis longtemps été prises d'assaut. Il avait dû se caler dans un siège au milieu de la rangée centrale. « Rémi, tu es en route pour les tropiques !» jubilait-il intérieurement. Il s'endormit avec cette joyeuse pensée. Réveillé pour le petit déjeuner, il avait compté les minutes qui le séparaient de l'atterrissage. Les premiers rayons avaient illuminé les contreforts de l'île, dévoilant les pentes surpeuplées de la capitale Saint-Denis. Puis l'avion avait presque plongé vers l'océan avant de rouler sur la piste parallèle à l'océan Indien. Les formalités rapidement accomplies, il avait patienté longtemps devant le tapis à bagages qui vomissait des colis de toute taille, un vélo, une poussette à bébé, des planches de surf, des valises de toutes catégories, multicolores, portant des rubans rouges ou bleus, des cartons éventrés. Mais pas sa valise. Il avait attendu la sortie des derniers passagers et se retrouvait seul devant l'évidence. Peut-être qu'un autre passager s'était trompé, ou l'avait-on oublié, ou elle était partie sur un autre vol. Les questions se bousculaient. La préposée au bagage l'avait vite rassuré. Ce n'était qu'un contretemps. Après avoir appelé à divers services, elle lui signala que sa valise arriverait le lendemain et qu'il pourrait la récupérer sans problème. Ouf ! Un petit grain de sable qui n'allait pas lui gâcher son voyage de rêve. La voiture de location était réservée, tout était prévu. Il avait trouvé une chambre dans le sud, il irait à l'aventure en attendant, il dormirait dans un petit hôtel pour cette nuit et partirait demain. Portant la main à sa poche, il s'avisa que son porte-monnaie, où il avait mis tout le liquide dont il aurait besoin, n'était pas là. Son cœur se mit à battre un peu plus fort. Il se revoyait le posant sur la table du salon. Mais qu'est-ce qu'il était bête, il l'avait laissé là. Décidément, tous ces petits détails n'allaient pas lui gâcher son séjour. Il retirerait de l'argent à un guichet automatique. Il roula au hasard dans les rues de la ville à la recherche d'une banque, suivant au hasard les rues, au petit bonheur la chance. Il n'avait pas envie de consulter un plan, juste partir à la découverte. Après avoir tourné un bon moment, il finit par trouver ce qu'il cherchait et mit sa carte dans l'appareil, comme d'habitude. Mais il s'avisa tout à coup qu'il ne se rappelait pas son code. Il avait beau chercher, rien ne venait. Comme si le fait de se retrouver dans son rêve l'avait fait basculer dans un autre espace-temps. À force de chercher et d'essayer diverses combinaisons, la carte se trouva avalée au troisième essai. On était samedi, il faudrait attendre lundi pour l'ouverture des guichets. Sur le moment, il se sentit un peu perdu. Trop de péripéties, trop d'imprévus lui faisaient perdre le fil de son histoire. Avec l'euro qu'il avait dans sa poche, il appela son logeur et lui signifia simplement qu'il passerait la nuit à Saint-Denis et qu'il arriverait le lendemain. Il n'osait plus penser, ni décider. Il se sentait devenir un jouet entre les mains du destin. « Rémi, pas d'affolement. C'est une étape initiatique, sait-il, il faut la mériter. » C'est ce qui était écrit sur des publicités qu'il avait lues pendant le voyage. « L'île de la Réunion, l'île des sensations intenses. » Il était servi, bien mieux qu'il ne s'y attendait. Il avait choisi l'aventure. C'est elle qui décidait pour lui. Il fallait se laisser faire. Pas d'argent liquide, plus de carte bleue. Il décida de passer la nuit dans sa voiture. Bon, après tout, c'était l'été, il était en vacances. Quoi demander de mieux ? Il s'installa en bordure d'un parc, pas trop à l'écart. Avec la veine qu'il caractérisait depuis son arrivée, on ne savait jamais. Cela pouvait encore être pire. Et c'est ainsi qu'il s'était enfermé dans sa voiture pour se mettre à l'abri d'éventuels petits délinquants. Les quotidiens de Lille qu'il avait lus dans l'avion faisaient état de plusieurs affaires où de jeunes désœuvrés s'attaquaient à des passants sur le front de mer ou aux rues Maréchal Leclerc. Les affaires de carjacking semblaient courantes. Alors, il espérait être ignoré, se faisant tout petit, invisible. La nuit se traîna jusqu'au petit jour, où il décida de faire quelques pas. Il sentait l'arôme du pain chaud provenant d'une boulangerie voisine. Il se débarbouilla avec le peu d'eau de la bouteille qu'il avait avec lui. Pas grand monde dans les rues, juste un pauvre mec aviné, dépenaillé, qui errait à la recherche de quelques restes dans les poubelles d'un restaurant. Les cloches de l'église sonnaient joyeusement, appelant les fidèles à la messe. Il n'osa pas trop se faire voir, un peu gêné par ses habits froissés et sentant la transpiration. Il restait, à Rémy, une longue journée à tirer et encore une nuit, avant que tout rentre dans l'ordre. Finalement, il décida d'entamer la conversation avec ce compagnon des rues. Installés tous les deux sur un banc, à l'ombre d'un manguier, le vagabond prit du temps pour mettre de l'ordre dans ses idées. Puis, la langue encore un peu lente, l'esprit embrumé, il lâcha quelques confidences sur son histoire. « Quand je suis arrivé à l'île de la Réunion, je n'ai pas eu de chance. J'avais oublié mon porte-monnaie et je me suis fait avaler ma carte bleue au gabier. »
Vacances de rêve.
Voilà. Mais bon, il finira peut-être pas clochard quand même.
Peut-être.
Voilà. Il peut avoir de l'aide. Il a bien de la famille qui va l'aider.
J'espère pour lui. Alors, tu sais, je me suis dit que les deux personnages ne faisaient peut-être qu'un après tout. Je me suis dit, oui, c'est peut-être une projection.
C'est peut-être le même.
Ou un flashback.
Voilà. On ne sait pas, on ne sait pas.
Dédoublement de personnalité.
Alors, le gabier, hein, c'est le distributeur de billets en créole. Voilà. Alors, cette nouvelle donc a été écrite par Isabelle Warraud, qui est née à Saint-Pierre de la Réunion en 1955. Alors, elle est anthropologue, poète et dramaturge. Elle est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de contes et d'albums dans lesquels elle propose une nouvelle relation de l'homme et de la nature basée sur une vision édénique de la nature illienne, renouant avec la tradition des légendes, messagère de sagesse et chemin initiatique liant le monde symbolique et universel. Donc elle anime régulièrement des ateliers d'écriture en poésie, contes, récits ou comédie musicale, pardon, dans les collèges. Elle a participé à de nombreuses manifestations autour du livre et des traditions, comme conférencière ou conteuse, pour mieux faire connaître l'île de la Réunion, ainsi qu'à des émissions de radio et de télévision avec RFO sur les traditions réunionnaises.
Oui, puis elle a beaucoup écrit pour la littérature jeunesse, des voilà, contes et légendes, justement, voilà, de la Réunion.
Donc, alors après New York et l'île de la Réunion, eh bien, on vous propose un petit voyage à Venise. Voilà. Donc là, c'est extrait d'un gros livre qui s'appelle « Voyage d'une vie ». d'Henry James, où en fait c'est un recueil de tous les textes qu'il a pu écrire sur, tout au long de ses voyages. Donc là, l'extrait qu'on va vous lire qui s'appelle Venise, et fait partie de ce qu'il a appelé les heures italiennes, et donc qui sont parus dans le Century Magazine en 1882. Voilà, donc je vous propose d'écouter la version de Venise d'Henry James.
Un tour en gondole.
Voilà.
Venise. C'est un grand plaisir d'écrire ce mot, mais je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas quelque impudence à prétendre y ajouter quoi que ce soit. Venise a été dépeinte et décrite plusieurs milliers de fois, et de toutes les cités du monde, elle est la plus facile à visiter sans qu'il soit besoin d'y aller. Ouvrez le premier livre, il lui consacre une dithyrambe. Entrez chez le premier marchand de tableaux, vous en verrez trois ou quatre vues coloriées. Il y a notoirement rien de plus à dire sur le sujet. Tout le monde y est allé, et tout le monde en a rapporté une collection de photographies. Le Grand Canal a aussi peu de mystère que la rue voisine, et le nom de Saint-Marc est aussi familier que la sonnette du facteur. Il n'est pas interdit, cependant, de parler de choses familières, et j'estime que pour le véritable amoureux de Venise, Venise ne cesse d'être à l'ordre du jour. Il n'y a certainement rien de neuf à en dire, mais le vieux vaut mieux que toute nouveauté. Il serait tout à coup sûr très triste le jour où il y aurait quelque chose de neuf à en dire. J'écris ces lignes dans la pleine conscience de n'avoir à offrir aucune information d'aucune sorte. Je n'ai pas l'ambition d'éclairer le lecteur. Je ne prétends pas qu'à donner un coup de fouet à sa mémoire. Et je considère comme suffisamment justifié tout écrivain qui, lui-même, est amoureux de son thème. Le mois de mai à Venise est meilleur que le mois d'avril, mais le mois de juin est le meilleur de tous. Alors les journées sont chaudes, mais non trop chaudes, et les nuits sont plus belles que les journées. Alors Venise est le matin plus rose que jamais, et plus dorée que jamais à la tombée du jour. Elle semble se dilater et s'évaporer, multiplier tous les effets et toutes les irisations. Alors la vie de sa population et l'étrangeté de sa configuration deviennent une perpétuelle comédie, ou du moins du théâtre perpétuel. Alors la gondole est notre unique habitation, et vous passez vos journées entre mer et ciel. Vous allez au Lido, quoique le Lido ait été défiguré. Quand je le vis pour la première fois, en 1869, c'était un endroit livré à la nature, et il n'y avait qu'un mauvais chemin traversant la petite île du débarcadère à la plage. Il y avait à l'époque un établissement de bain et un restaurant, qui était très mauvais, mais où durant les soirées tièdes, votre dîner n'avait pas beaucoup d'importance, lorsque vous le laissiez refroidir en vous attardant sur la terrasse de bois s'avançant sur la mer. Aujourd'hui, le Lido fait partie de l'Italie unifiée, et on en a fait la victime d'aménagements abominables. Un petit village banlieusard a jailli dans cet espace bucolique et un boulevard de troisième ordre mène de Santa Elisabetta à l'Adriatique. Il y a des promenades de bitume et des réverbères, des pensions, des boutiques et un teatro diurno. L'établissement de bain est plus grand qu'auparavant et le restaurant de même, mais il y a sans doute quelques compensations dans le fait que la cuisine n'y est pas meilleure. Tel qu'il est, toutefois, vous ne dédaignerez pas en profiter à l'occasion et de prendre le frais sur la plateforme en bas de laquelle les baigneurs barbotent et s'éclaboussent et qui s'ouvre sur l'espace où les bateaux de pêche, avec leurs voiles teintées d'orange et de pourpre, se découpent sur l'horizon qui s'enténèbre. La plage du Lido est encore solitaire et belle et vous pouvez aisément vous éloigner du village banlieusard. Le retour vers Venise au coucher du soleil est classique et indispensable. Et ceux qui, à cette heure flamboyante, ont glissé sur les flots vers les tours qui surgissent de la lagune, ne se déferont pas facilement d'une pareille impression. Mais vous vous livrez à des excursions plus étendues. Vous allez à Burano, à Torcello, à Balamoco et Chioga. Torcello, comme le Lido, a été aménagé. La petite cathédrale, extrêmement intéressante, du 8e siècle, qui s'y dresse au bord de la mer, aussi touchante dans ses ruines, avec son seuil herbeux et ses mosaïques primitives, que les os blanchis d'un squelette humain battu par la marée, a maintenant été restaurée, rendue pimpante, et le charme de l'endroit, sa désolation étrange et suggestive, s'est presque évanoui. Elle vous servira de prétexte, toutefois, pour passer une journée sur la lagune, en particulier pour débarquer à Burano et admirer sa merveilleuse population de pêcheurs dont la bonne mine et les mauvaises manières, je regrette de le dire, sont au-delà de toute exagération. Burano est célèbre pour la beauté de ses femmes et la rapacité de ses enfants. Et c'est un fait que, quoique la plupart des dames en usent avec hardiesse, chacune d'elles vous montre un joli visage. Les enfants vous assaillent pour quelques sous et, dans leur désir d'être satisfaits, poursuivent votre gondole jusque dans l'eau. Chioggia est une Burano plus vaste et vous emportez de chacun de ces endroits une impression à moitié triste, à moitié cynique, mais entièrement pittoresque. L'impression de taudis hauts en couleur, de baignades dans l'eau stagnante des canaux, de jeunes filles au visage d'une ligne délicate et à l'expression farouche, avec des têtes composées par de splendides cheveux et une couche de poudre, de châles d'un jaune fané qui pendent comme d'anciens drapés grecs, et de petites sandales de bois qui claquent lorsqu'elles montent ou descendent les marches des ponts convexes. De matrones aux joues brunes, aux boucles luisantes, au fort tempérament, au cou massif enserré dans des perles dorées et aux yeux qui croisent les vôtres avec une sorte de défi traditionnel. Les hommes, dans toutes les îles de Venise, sont presque aussi beaux que les femmes. Nulle part je n'ai vu autant de séduisantes canailles. À Burano, à Chioggia, ils sont assis à réparer leurs filets, se prélassent au coin des rues où le verbe est toujours haut, ou bien vous hurlent de prendre un bateau. Et partout, ils enrichissent le décor de leurs couleurs splendides. Joues et gorges d'un brun aussi profond que les voiles de leurs semaques, de leurs guenilles mangées de sel, qui sont toujours un costume, de leur doux jargon vénitien et de la bravade avec laquelle ils portent leur chapeau, élément qui nulle part n'est aussi saillant que sur une masse dense de boucles vénitiennes. Avec un peu de chance, vous vous trouverez, après une journée de juin dans Venise, vers 10 heures, sur un balcon surplombant le Grand Canal, les coudes posés sur le large rebord, une cigarette aux lèvres et, à vos côtés, une aimable compagnie. Les gondoles passent en dessous, la surface aquatique reflète ça et là leurs lampes, dont quelques lanternes colorées. Certains soirs de juin, il y a trop de gondoles devant les hôtels, trop de lanternes, trop de sérénades. La sérénade en particulier est exagérément poussée. Mais sur un balcon tel que celui dont je parle, vous n'avez nul besoin de supporter cela, car dans l'appartement derrière vous, refuge accessible, il y a une compagnie plus aimable encore et encore plus de cigarettes. Si vous êtes avisé, vous vous y retirerez bientôt.
Il y avait déjà des bouchons de gondole, si je comprends bien.
Voilà. Et trop de sérénades. Hein,
trop... Ah bah oui.
Ça roucoulait sous les balcons. Alors, Henry James, il est né le 15 avril 1843 à New York et décédé le 28 février 1916 à Chelsea. Et donc, c'est un écrivain américain qui a été naturalisé britannique en juillet 1915, donc peu de temps avant son décès. Donc, c'est une figure majeure hein, du réalisme littéraire du 19e siècle. Et Henry James est donc considéré comme un maître de la nouvelle et du roman pour le grand raffinement de son écriture. Alors, on le connaît surtout pour une série de romans importants dans lesquels il décrit la rencontre de l'Amérique avec l'Europe. Alors, ces intrigues traitent de relations personnelles et de l'exercice du pouvoir qu'elles impliquent, ainsi que d'autres questions morales. En adoptant donc le point de vue d'un personnage central de l'histoire, il va explorer donc les phénomènes de conscience et de perception. Le style de ses œuvres tardives l'a fait comparer à un peintre impressionniste. Alors Henry James, il voulait convaincre les écrivains britanniques et américains de présenter leur vision du monde avec la même liberté que les auteurs français. Donc son usage imaginatif du point de vue narratif, du monologue intérieur, dans ses propres nouvelles et romans, va apporter une nouvelle profondeur et un regain d'intérêt à la fiction réaliste et préfigure des œuvres modernes du XXe siècle. Donc outre son imposante œuvre de fiction, cet auteur prolifique va produire également de nombreux articles, des livres de voyage, de biographies, d'autobiographies et de critiques littéraires, mais aussi des pièces de théâtre dont certaines furent montées de son vivant avec un succès relatif. Mais son œuvre dramatique aurait profondément influencé ses dernières productions littéraires. Alors, il a quand même en tout écrit 23 romans, ce qui n'est pas rien, dont par exemple Portrait de femme en 1881 ou encore les Bostoniennes en 1886, qui ont tous les deux été adaptés au cinéma.
Portrait de femme de Jane Campion.
Voilà, c'est ça. Un très beau film. Et puis, il a écrit donc quand même plus de 150 nouvelles et écrit de nombreux essais aussi. Hein. Et donc là, dans son livre que l'on a cité, là, donc, qui s'appelle « Voyage d'une vie », hein, donc il raconte un peu tous ses voyages au travers de l'Amérique, de l'Europe. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'il écrivait ses articles, il les donc envoyait à la presse. Ouais, et donc, c'était publié au fur et à mesure. Et donc, ça a été recueilli après dans un seul volume.
Alors, il a écrit un petit guide que j'aimerais bien lire, moi, dans les années 1880, A Little Tour in France, à la destination des voyageurs dans les régions de la Loire et du Midi. Donc, ça doit être drôle avec le recul voir, parce qu'il décrit tout avec minutie, apparemment. Mmh. Donc, une petite plongée dans les guides touristiques, fin 19e.
Voilà, de l'époque. Mais c'est très, très intéressant et agréable à lire dans une lecture. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Alors, je pense qu'on vous refera l'année prochaine un petit voyage comme ça de fin d'année. On s'applique à faire ça. Comme pour
du
Noël, on vous fait des petits contes de Noël.
Moi, je ne résiste pas à la tentation de citer Baudelaire, hein, Mireille.
Ah, vas-y.
Les plus beaux voyages sont ceux que l'on imagine idéalement, loin des contingences et lourdeurs du réel.
Oh, bah alors.
Ça, la présenteur.
Voilà. C'est bien pour finir. Alors, il nous reste 2-3-4 minutes. Est-ce qu'on repasse un petit coup de Jeanne Moreau?
Tellement bien.
Voilà, c'était tellement bien comme chanson. Alors on vous souhaite de belles vacances.
Bonnes vacances de toutes les manières.
Voilà, même si vous restez chez vous, vous pouvez lire. Il y a des tas de livres qui parlent de voyage, qui sont agréables. Donc même si vous restez dans votre jardin.
On peut s'échapper.
Ou sur votre balcon, il n'y a pas de problème. Bon, alors bonnes vacances à tous.
Pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages, les voyages, je sais comment passer. Sables dorés et coquillages murmurent en dormeurs du feuillage. Le vent efface mon sillage. Pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages, les voyages, je veux des fruits mûrs, des fruits verts, des fleurs charnues, calices ouverts, des parfums fous, légers, pervers, la mer s'offre chaude. Fais-moi douce petite ronde. Pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages, les étoiles Je vais dormir, mais au revoir. Je vais dormir, mais au revoir.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.